France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Éric Orsenna de l'Académie française. Bonjour Éric Orsenna.
Bonjour Madame Moreau, bonjour, bonjour.
Bienvenue dans le van de France Musique, merci d'être avec nous.
Vous recevez un fan.
C'est très gentil, c'est très très gentil. Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un écrivain passionné de musique. Depuis quand cultivez-vous cette passion pour la musique classique, Éric Orsenna ?
Alors en fait, on s'était réparti les rôles entre mon frère et moi, très tôt. Mon frère faisait de la guitare classique depuis l'âge de 6-7 ans, et moi, il était convenu avec ma mère que je serais écrivain. Donc j'avais pas le droit à la musique. Donc j'écoutais de l'autre côté de la très mince cloison, mon frère récitait sans arrêt, Jeux interdits et tout ça, etc. Et je disais, décidément, je veux la musique. Et puis un jour, j'étais à la cathédrale de Quimper, où est une partie de ma famille, et j'ai entendu la sonate 147. J'ai su que ma joie demeure et je me suis dit, là il y a un royaume, je ne sais pas dans combien de temps, mais je m'installerai dans ce royaume.
Je crois que vous pratiquez un petit peu le piano depuis quelques années.
Alors, je vais vous dire qu'il y a 6 ans, je m'étais dit que j'allais faire la chasse au regret. Et le principal regret, c'était de n'avoir jamais fait de musique, étant donné l'interdiction que mon frère m'en avait faite. Et puis que j'avais jamais fait de solfège, rien du tout. Et je me suis dit, pas question. Donc, j'ai acheté un piano, rue des Écoles, chez AM. Maintenant, c'est un Biocoop, vous savez. C'est l'évolution des choses. Et puis, il y avait quelqu'un qui passait par là, qui était Philippe Lecointre, qui dit, j'ai un piano, maintenant il faut un professeur. Et c'est Philippe Lecointre, et il m'a donné encore une leçon ce matin même. Voilà, donc j'ai commencé il y a 6 ans. Et je dis vraiment à tous les auditeurs, c'est formidable d'écouter. Et d'écouter Madame Moreau, c'est exceptionnel. Mais si en plus, vous pouvez pratiquer, quelque chose d'autre va se passer. Même quand vous êtes comme moi très très mauvais. Parce que vous allez mieux entendre. Et pourquoi ? Je vois pas une seule raison de se priver, même si on est mauvais. Mais quand petit à petit ça chante, vous savez, quand de petit à petit... En ce moment, je suis en train d'essayer de jouer une transcription de la cantate 208, vous savez, que joue Katia Bouniatichvili. Mm-hmm. Et donc, petit à petit, oh là là, que c'est beau. Et je me dis, c'est moi, c'est mes petits doigts ridicules hein, qui sont capables d'engendrer cette musique. Je suis content.
Bien sûr, ça crée une proximité avec l'œuvre.
Et on
entend d'une manière différente.
Et vous savez, j'ai eu l'honneur d'être le parrain du Festival des Virtuoses Amateurs avec Julien Kurtz au Châtelet, il y a 15 jours. Et je me suis rendu compte à quel point j'écoutais mieux. C'est-à-dire la musique n'était pas extérieure.
Vous avez tout à fait raison, Éric Orsenna. On vous reçoit aussi pour votre ouvrage « La passion de la fraternité ». Beethoven, c'est le titre de ce livre, paru chez Stock le 21 avril dernier. Éric Orsenna, vous avez reçu le prix Goncourt en 1988 avec votre roman « L'exposition coloniale ». Vous avez été le conseiller culturel de François Mitterrand. Et vous êtes
qui détestait la musique.
L'invité, hélas.
Non, mais c'était étonnant, comme Malraux. C'était... Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont une culture gigantesque, mais la musique, non.
Une sensibilité.
Mais zéro. À chaque fois que je lui proposais des concerts inouïs, Barenboim, etc., il disait voyez Daniel, sa femme. Et puis sa femme aimait un peu plus, mais pas tellement. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la musique, mais avec des concerts invraisemblables, évidemment.
Et pour vous qui adorez la musique, Éric Orsenna, vous êtes donc notre invité jusqu'à 18h. On va écouter un extrait du final de la 9e symphonie de Beethoven.
Was die Mode streng getrübt, alle Menschen.
Thank you.
Extrait du final de la 9e symphonie en ré mineur de Beethoven par la soprano Roberta Alexander, la contralto Florence Quivar, le ténor Gary Lakes, la basse Paul Plischka, le chœur Ambrosiane, le Royal Philharmonic Orchestra de Londres dirigé par André Prévin, le Van avec Eric Orsena aujourd'hui sur France Musique. Eric Orsena qui a apprécié cette œuvre, on se sent moins seul. Vous avez senti cette joie, la joie qui se dégage de cette musique et vous nous l'avez, vous l'avez partagée avec nous pendant la musique, il faut le dire.
Moi, je danse, je ne peux pas me tenir immobile. Vous savez, je suis d'origine cubaine, on le voit, on le devine pas, en dépit de mon physique élancé et sensuel, mais c'est vrai que je danse sur ces musiques-là, et cette musique-là est incroyable. Et puis, la joie est là, la fraternité est là, c'est toute l'histoire de Beethoven depuis qu'il avait eu ce premier contact avec ce poème, depuis toujours. Imaginez le petit Beethoven, il a 11 ans, 12 ans, et son premier travail, il accompagne les productions du théâtre municipal de Bonn. Et là, il y a Schiller qui présente les brigands. On imagine le petit gamin de 11 ans, l'autre il y a une vingtaine d'années, déjà très connu parce que les brigands, c'est toute la génération qui se révolte, c'est mai 68 en Allemagne à cette époque. Et donc il se révolte et il est là et il se dit, oh là là, celui-là, mais c'est mon grand frère.
Justement, Eric Orsena, dans votre ouvrage « La passion de la fraternité Beethoven », vous parlez des premiers maîtres de Beethoven, des tout premiers maîtres, Joseph Haydn, tous ceux qu'on connaît. Qui sont pour vous les maîtres qui ont eu la plus grande influence sur le compositeur ?
Alors, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est une sorte de géographie et d'histoire. C'est-à-dire que on parle d'un temps où l'Allemagne n'existait pas. On parle d'un temps où il n'y avait que des petites principautés qui formaient le Saint-Empire romain germanique et on se faisait la course entre principautés pour savoir lequel aurait la cour la plus cultivée et notamment en termes de musique, première chose. Mais circulaient un peu partout dans le territoire des colporteurs. Et les colporteurs, ils n'avaient pas simplement de la nourriture, ils n'avaient pas simplement des livres, mais ils pouvaient offrir des leçons. Donc il y avait des gens pas du tout connus qui venaient, et vous n'auriez pas besoin de leçon de piano. Vous imaginez ? Toc, toc, toc à votre porte, vous n'auriez pas besoin de leçon de piano. On disait, ben si, venez 3 mois, et puis après, ils disaient, bon, ben j'ai plus rien à apprendre, et puis il y en a un autre qui arrivait. Donc tous ces maîtres sont là, et moi, je suis pas du tout musicologue, je rends un hommage infini au monument des Massins qui, eux, ont vu, voyez, mais j'essaye de retrouver cette ambiance-là. C'est l'apport éventuel, vous savez, d'un romancier à cette histoire de la musique. C'est-à-dire, comment ça se faisait que la musique était tellement là ? Tellement là. Beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en France,
alors
déjà.
Pourquoi Beethoven, Eric Orsena ? Pourquoi pas un autre compositeur ? Pourquoi lui ?
Qu'est-ce qui vous a amené ? Ça, c'est une histoire d'amitié. Parce que, comme je suis passionné de la frontière et surtout des manières dont on passe la frontière, je m'étais dit, comme j'avais travaillé sur Beaumarchais, comme j'avais déjà fait des spectacles avec les Arts Florissants sur le passage entre la pièce de Beaumarchais, le mariage, et l'opéra de Mozart, les noces, je m'étais dit, je vais faire Mozart qui franchit toutes les frontières, évidemment des âges, évidemment les frontières des pays, évidemment des générations, évidemment la frontière insensible chez lui, toujours entre la nostalgie et puis une sorte de joie qui monte. Et puis, Henri de Marquette, un violoncelliste avec qui j'avais envie de faire de la musique, me dit, mais il n'y a pas de violoncelle, il y a très peu de violoncelle chez Mozart. Pourquoi ? Parce que chez lui, le violoncelle, c'est la voix. Pourquoi tu ne ferais pas Beethoven ? Et c'est grâce à l'amitié que je suis entré dans cette passion de la fraternité. Merci Henri.
Vous apprenez le piano depuis quelques années, on en parlait tout à l'heure, Eric Orsena. Est-ce que ces sonates du jeune Beethoven, ce sont des textes que vous abordez déjà ?
J'aborde, alors en général c'est très compliqué, c'est-à-dire que j'aborde la mélodie du départ et puis après ça devient assez rapidement compliqué, ou surtout, et surtout la vitesse, parce que j'ai eu un cours ce matin, et donc ce matin il m'a dit, ça devrait, on sent déjà un tout petit peu de musique, mais on sentirait mieux la musique si tu jouais un tout petit peu plus vite.
Michel d'Alberto au piano qui nous offrait cette formidable interprétation du final de la deuxième sonnette en la majeure de Beethoven, qui est encore une forme d'hommage à l'un des maîtres du compositeur, son maître Joseph Haydn. Vous dites dans votre ouvrage, Eric Orsena, que très tôt Beethoven a découvert que la musique valait mieux qu'une chambre pleine de jouets, car la musique est un royaume enchanté. C'est une belle idée, je trouve.
C'est une belle idée, mais je reviens sur l'interprétation de Michel d'Alberto. J'ai la chance d'être son ami, on a la chance de faire des spectacles ensemble. Imaginez ce que c'était ça. Ça arrivait comme ça, cette juste douceur, comme ça, il est là. Oh, moi, je suis ça, c'est un royaume absolu. Alors, quel jouet ? Les jouets sont lourds, la musique est légère.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
On avance un peu dans la vie de Beethoven avec vous, Eric Orsena. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette année 1802? Que se passe-t-il dans la vie de Beethoven? Dans quel état est-il? Quelle trace nous laisse-t-il de cette période qui va plus ou moins changer sa vie?
C'est un moment bouleversant. Il n'en manque pas dans la vie de Beethoven. Il va très mal dans tous les domaines. Son médecin lui dit de prendre un peu de repos. Il va dans une toute petite localité qui est pas loin de Vienne, qui est maintenant la banlieue de Vienne, qui s'appelle Heiligenstadt. Et il reçoit le fils d'un ami qui est en même temps son élève. Et puis il se promène beaucoup. Et puis à un moment donné, son élève lui dit « Écoutez au loin, regardez, entendez, il y a un berger qui est là et qui joue sur une flûte et il n'entend rien. » Et là, il avait déjà eu des troubles. Il pensait qu'il avait des troubles de l'audition. Et là, il écrit une lettre. Une lettre qu'on a reçue, qu'on a trouvée dans ses papiers après sa mort, une lettre qu'il n'a pas envoyée, comme beaucoup de lettres de Beethoven, il écrivait pour lui-même, une lettre normalement à ses frères, il disait, à ce moment-là, j'ai cru qu'il fallait que je mette fin, comme il dit, fin moi-même à ma vie. Parce que après tout ce que j'avais subi, et puis je me suis dit, c'est la fin. Et puis il dit, c'est pas possible, car je sens, moi, tant de musique, que je dois à l'humanité, de lui faire cadeau de ses musiques. Et là, on voit cette sorte de mission qui s'assigne très vite, une mission assez christique, au fond. Je fais don de mon art, don de ma personne à l'humanité. Et c'est pour ça que ça a déclenché quelque chose d'absolument incroyable. J'en ai parlé avec beaucoup de musiciens que je ne suis pas, et qui disent qu'au fond, cette sourdité constatée et assumée va lui ouvrir des voies nouvelles à la création. Et là, pour un non-musicien comme moi, c'est hallucinant. Comment la musique est-elle compatible avec la sourdité? Et il dit pas du tout, en fait, parce que la musique est dans le cerveau, surtout pour composer. On n'a pas besoin d'entendre.
Et c'est énorme.
Causa mentale, vous savez. C'est juste dans un petit coin. Il y a une mélodie dans un petit coin du cerveau. Et juste, voilà, on la transmet en notes. Et nous, qui avons une oreille, nous l'entendons. C'est absolument magique.
Et c'est pendant cette période pleine de doutes, de remise en question, que Beethoven va composer sa deuxième symphonie avec son deuxième mouvement, qui est particulièrement apaisé et serein. On l'écoute tout de suite.
Thank you.
Larghetto, deuxième mouvement de la deuxième symphonie en ré majeur de Beethoven, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Marie Siensons. Comment aurais-je pu passer à côté de ça? C'est ce que vous me disiez hors antenne, Eric Orsena.
Et ça, comment? Écoutez, et puis la flûte qui arrive là comme ça, c'est une flûte enchantée qui arrive, toute la pastorale qui se promène. Comment on peut passer à ça? Et comment les gens qui disent oui, comment? Ah, le classique. Mais qu'est-ce qui est plus libre que ça? Quelle promenade est plus à la fois sautillante et mouvante, ample, avec qui mêle le militaire et le champêtre, des petits moments, des citations sans arrêt, c'est un résumé de la vie entière. Moi je suis fou de ça, fou.
On va parler un peu de Fidelio, si vous le voulez bien, oui. Eric Orsena. Vous consacrez tout un chapitre à cet opéra de Beethoven, dont vous dites qu'il est un hommage au mariage. Fidelio, unique opéra du compositeur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la genèse de cette œuvre qui a demandé beaucoup de travail à Beethoven?
Alors, c'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire d'une femme qui s'habille en homme pour essayer de sortir de prison son mari. Donc c'est intéressant parce que c'est transgenre. C'est-à-dire la liberté est transgenre. C'est-à-dire, c'est en s'habillant en homme qu'une femme va redonner la liberté à son mari. Donc, et alors, c'était intéressant parce que c'était un moment où la Révolution voulait remettre quand même quelques bases dans la société. Donc, ça a eu un grand succès, une pièce de théâtre. Et puis, ce qui est formidable à cette époque de la fin du XVIIIe, c'est que les histoires circulent et que les musiciens, c'est ce qui se passera avec la pièce de Beaumarchais et Mozart, les musiciens veulent, comme a dit Mozart, mettre des pièces, des notes sur cette histoire. Donc il voulait mettre des notes sur cette histoire de Fidelio. C'est le mot Fidelio, quand même, fidèle. Et donc, et puis ça va être un four. Et ce qui est fascinant, une des choses fascinantes dans Beethoven, c'est qu'il y a des génies qui naissent génies. Et puis il y a des génies qui deviennent génies. Et puis il y a des pièces qui arrivent comme ça, toutes armées du cerveau du créateur, et d'autres qui mettent des années et des années, comme si le temps lui-même était une des matières de l'inspiration. Et c'est ce qui est passé, parce que la première fois qu'on joue Fidelio, c'est un four absolu. Les amis savent pas que lui dire. Alors est-ce que c'est le livret, est-ce que c'est la musique? Et lui, il pleure, il se met en rage, etc. Et petit à petit, et en même temps, c'est l'époque. C'est l'époque parce que qui sont les principaux spectateurs d'une des premières représentations de Fidelio? Ce sont les troupes françaises d'occupation à Vienne. Imaginez, c'est toute cette histoire moi qui me fascine, l'obstination. Et puis on arrive au chef-d'œuvre que nous connaissons, où c'est à la fois un opéra mais avec une ouverture incroyable et puis des chœurs, un jeu des chœurs incroyable.
Une écriture pour les voix, absolument.
Une écriture complètement novatrice. Et écoutez ce que vous avez dit comme phrase est magnifique. Écrire pour les voix. Donner la, c'est comme la liberté. C'est-à-dire, on ouvre, on donne à la voix la chance. Ça, c'est la création absolue. C'est-à-dire être plus grand que nous sommes.
Oh.
seulement j'étais unie à toi, s'il m'était donné de te dire mon époux, voilà ce que chante Marthe Soline au premier acte de Fidelio, alors qu'elle ne connaît pas encore la véritable identité de Fidelio qui se fait passer pour un homme. On vient d'entendre la soprano Lucia Pop dans le rôle de Marthe Soline avec l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Leonard Bernstein. Fidelio, c'est aussi le nom du trio que vous avez, que vous venez de créer, l'ensemble que vous venez de créer, Eric Orsena. Le trio Fidelio avec le pianiste Michel D'Alberto et le violoncelliste Henri de Marquette. Comment a eu lieu la rencontre avec Michel D'Alberto et Henri de Marquette?
Il se trouve que Michel et Henri et moi, nous sommes membres d'un club gastronomique. Et un jour, Henri, donc le violoncelliste, dit « il faudrait qu'on fasse de la musique ensemble ». Et moi, je dis « mais je ne suis pas musicien ». Alors, il me dit « ça fait rien, on va raconter une histoire ensemble ». Donc, on va créer le premier trio de l'histoire de la musique qui est pour piano, violoncelle et crayon. Et c'est moi le crayon. Donc, je raconte l'histoire et c'est un bonheur absolu. Parce que j'ai l'impression, en bon escroc que je suis, et me voilà filou et m'introduisant dans tous les univers, d'être un musicien parmi eux. Donc je raconte l'histoire avec eux.
Pour l'édition 2021, vous étiez également le parrain du Festival des amateurs virtuoses. Vous nous en parliez tout à l'heure. C'est important pour vous de soutenir ces amateurs qui sont parfois presque des professionnels, j'imagine.
D'abord, c'est soutenir les artistes et les musiciens dans cette période terrifiante, parce que j'ai vu tout ce qui se passait. Et puis je pense à tous ceux, évidemment, qui ont un nom et qui n'ont plus de concerts, mais ceux qui étaient en train de se faire un nom ou qui allaient commencer à se faire un nom. Donc je vois un peu ce que c'est. Donc tout ce qu'on peut pour les soutenir. Et puis, j'adore le mot amateur, parce que amateur, ça commence par amour et ça commence par acteur. C'est-à-dire, on aime et c'est pour ça que j'aime la lecture. Parce que la lecture, c'est pas de la consommation, c'est de la co-création avec l'écrivain. Et donc, ceux qui pratiquent à de tels niveaux, ils donnent envie. Moi, c'est ça que... Moi, mon maître à penser, c'est Johnny Hallyday, c'est donner envie, d'avoir envie, vous voyez. Et donc, et ma morale à moi, elle est très très simple, hein. Elle est double, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas pratiquer? Et le tuer, cette phrase insupportable, c'est pas pour moi. Le piano, le violoncelle, la flûte traversière, c'est pas pour moi. Si, tout est pour tout le monde.
On va écouter deux grands professionnels donc avec lesquels vous produisez, le violoncelliste Henri de Marquette, le pianiste Michel D'Alberto. Les voici dans l'Allegro molto final de la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms. Thank you. Allegro molto, le finale de la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms, Henri de Marquette au violoncelle, Michel d'Alberto au piano pour nous interpréter cette œuvre composée sur les rives du lac de Thun où Brahms aimait passer ses étés, cet endroit qui l'inspirait beaucoup. Vous, Eric Orsena, quelles sont vos sources d'inspiration? Y a-t-il des lieux, des endroits qui vous inspirent?
Moi, c'est la mer, la Bretagne, c'est les mouvements, c'est le nord de la Bretagne où il y a des marées qui dépassent 10 mètres. Donc j'avais l'impression de ne pas avoir de géographie à Paris. Et puis on passait deux mois et demi par an, et là, brutalement, il y avait les marées. Et j'avais l'impression, en plus, que l'île allait se... C'était l'île de Bréhat, que l'île allait se décrocher, et qu'on allait partir au milieu de la mer. Et donc, il y a un lien très très fort entre... Enfin, c'est pas original, hein, entre la musique, la navigation et l'écriture. En fait, j'ai écrit en même temps que je naviguais. J'étais seul sur un tout petit bateau à voile à 8 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier roman.
Et la musique, est-ce que l'écriture est musicale pour vous, Eric Orsena?
En tout cas, il est hors de question d'écouter de la musique en écrivant. La musique est la récompense. Et puis, il y a des... J'ai pas du tout l'oreille absolue, pas du tout, mais je pense avoir une oreille assez juste, par exemple, pour les dialogues, ou par les mots, ou par, vous savez, les noms. Un des génies de Modiano, c'est de trouver des noms à ses personnages. Mmh. Et quand j'étais éditeur, je prenais pas un manuscrit quand un nom était faux. Et là, je pense, je sais que ça marche pas. Et je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est faux. Et il y a une phrase que je refais, et quelqu'un à tel moment peut pas dire ça. C'est faux.
Vous parliez de récompense. On va justement se récompenser avec l'un de vos choix musicaux, l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss. Avant cela, je vais annoncer quelques dates de vos spectacles qui reprennent le 19 juin. Il était temps. Vous serez le mercredi 30 juin au Grand Théâtre de la Criée de Marseille, le dimanche 4 juin à l'abbaye de Saint-Michel en Thiérache dans l'Aisne.
Avec les Arts Florissants.
Absolument. France Musique est partenaire d'ailleurs de ce beau festival. Et pour finir, vous serez le 5 juillet dans la cour du château de Chambord.
Le 8 juillet. Le 8 juillet à Chambord.
On va donc vous écouter. Vous avez accepté avec grand plaisir de nous lire ce texte d'Hermann Hesse pour ce deuxième des quatre derniers leaders de Richard Strauss.
Le jardin est en deuil. La pluie fraîche s'infiltre dans les arbres et l'été frissonne doucement car sa fin est proche. Feuille après feuille tombe en pluie dorée du haut acacia. L'été sourit. Étonné là, dans le rêve mourant de ce jardin, longtemps encore auprès des roses, il s'arrête, avide de calme, doucement il ferme ses grands yeux-là. Septembre.
La soprano Lucia Pop dans ce septembre, deuxième des quatre derniers leaders de Richard Strauss. Elle était accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Klaus Tennstedt en 1982. Merci d'être passé nous voir, Eric Orsena. Vous devez nous quitter. Où vous rendez-vous d'ailleurs dans une demi-heure?
Alors d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai appris quelque chose. Les vrais merci sont toujours réciproques. Et d'autre part, je vais à un moment qui est pour moi merveilleux, c'est-à-dire que imaginez que la Société de Géographie vient de me donner son grand prix et je le reçois dans une demi-heure. Ils me disent, vous êtes des nôtres.
Alors, toutes nos félicitations et nos remerciements d'avoir passé cette heure en notre compagnie.
Quand vous voulez, hein, je me tape l'incruste quand vous voulez.
Avec grand plaisir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Passion de la Fraternité, Beethoven. C'est sorti chez Stock le 21 avril dernier. Un grand merci à l'équipe du Van de France Musique, Cécile Bonnet-Descloustres, Emmanuel Morse-Duncan et Vivian Lecuivre.
À réécouter sur francemusique.fr.